VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Le président américain Donald Trump est aujourd'hui en Israël, deuxième étape de sa première tournée à l'étranger depuis son investiture au début de l'année. À l'issue du premier vol direct entre l'Arabie Saoudite et l'État hébreu, le chef de l'exécutif américain a été chaleureusement accueilli à son arrivée ce lundi à Tel Aviv par le président israélien Reuven Rivlin et le premier ministre Benjamin Netanyahu. Au programme de Donald Trump aujourd'hui, entre autres, une visite à Jérusalem où il ira au Saint-Sépulcre, le lieu le plus saint du christianisme, et aussi au Mur des Lamentations, le site de prière le plus sacré pour les Juifs. Il deviendra ainsi le premier président américain à se rendre sur ce haut lieu du judaïsme. Donald Trump aura par la suite des consultations avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Demain mardi, le président Trump ira en Cisjordanie, où il sera reçu à Bethléem par le président palestinien Mahmoud Abbas. Lors de la première étape de sa tournée à Riyad en Arabie Saoudite, le président Donald Trump a exhorté les pays musulmans hier à lutter avec détermination contre l'extrémisme islamique. Le point avec Frédéric Nkoudjigidje.
Devant les représentants d'une cinquantaine de pays musulmans, Donald Trump s'est dit porteur d'un message d'amitié, d'espoir et d'amour du peuple américain. Dans son discours très attendu, il a appelé les dirigeants musulmans à faire face à la crise de l'extrémisme islamique. Poursuivant sur sa lancée, M. Trump a exhorté les dirigeants musulmans à refuser refuge aux terroristes, à les chasser de leur communauté et de leur lieu de culte. Il s'en est aussi violemment pris à l'Iran, accusé de soutenir le terrorisme. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a dénoncé dans un tweet ces attaques formulées contre son pays.
Prochaine étape de la tournée du président Trump après Israël et les territoires palestiniens, le Vatican, puis Bruxelles et la Sicile pour les sommets de l'OTAN et du G7. Crise migratoire maintenant, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a décrit les conditions de vie épouvantables dans les centres de rétention pour migrants en Libye. L'organisation onusienne a appelé hier à la libération des demandeurs d'asile et des réfugiés. Jean-Roger Bion.
Philippe Ograndi, patron du HCR, a effectué une visite surprise de quelques heures à Tripoli et s'est rendu dans un centre de rétention. Se disant choqué, il a décrit des conditions de vie exécrables d'un point de vue sanitaire avec des personnes qui dorment les unes sur les autres. Le chef du HCR a par ailleurs souligné avoir recueilli des témoignages très difficiles sur des cas d'esclavage moderne de la part de gangs et d'éléments criminels. Selon lui, d'autres solutions devraient être trouvées pour les migrants venant de pays en conflit, comme les Syriens ou les Somaliens. Après avoir relevé que l'urgence s'appliquait aussi aux 500 000 déplacés libyens, M. Grandi a exprimé sa vive inquiétude sur la hausse des tentatives de traverser en Méditerranée centrale.
Au Bénin, la justice prononce un non-lieu dans le scandale financier du PPEA. Le PPEA, c'est le nom du programme d'accès à l'eau potable financé par la coopération néerlandaise. L'affaire a éclaté le 8 mai 2015 vers la fin du mandat du président Yayi Boni à l'issue d'un audit diligenté par les Pays-Bas. Au total, 2,6 milliards de francs CFA ont été détournés. Une affaire dans laquelle le nom de l'ancien ministre de l'eau, Barthélémy Cassa, avait été cité avec 12 autres personnes dont des opérateurs économiques et des cadres de l'administration publique. Le verdict de la justice, 2 ans après, laisse les populations perplexes. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginelle Fleur, à Dandé.
Les Béninois sont en tout cas étonnés de la décision puisqu'à l'époque, toutes les preuves semblaient être réunies pour établir la culpabilité des mises en cause. Pour certains, c'est un problème d'éducation, le fait que l'impunité semble s'ériger en règle au Bénin.
C'est la punition qui manque et qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu la règle. Vous avez les gros scandales financiers, mais on punit combien de personnes?
Les nouveaux maîtres du pays ont un devoir d'assainissement. Ils ont le devoir de faire en sorte que les gens qu'on place suscitent l'envie d'appartenir à ce pays.
Pourtant, le ministre Barthélémy Kassa, principal mis en cause dans cette affaire, qui a même été contraint à la démission, parle d'un montage bien ficelé pour le voir à genoux.
Il dénotait carrément d'une cabale inutile, d'une haine nourrie envers quelqu'un qui a tout donné. Le manipulateur en connaît les raisons.
Depuis la publication de la décision, les syndicalistes et autres acteurs de la société civile ne se bousculent pas encore au pupitre de l'indignation. Le silence est lourd, si ce n'est sur les réseaux sociaux que les internautes béninois y vont de leurs commentaires pour apprécier la décision qui attend peut-être que le gouvernement fasse appel. De Cotonou, Ginette Fleur Adani pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires sont désormais impatients de voir leurs revendications aboutir après la mutinerie de ces derniers jours. Les syndicats n'excluent pas de bloquer le fonctionnement de l'administration pour se faire entendre. Théodore Nianzadi est le président de la plateforme des fonctionnaires ivoiriens.
Aujourd'hui, les fonctionnaires ne demandent pas au gouvernement de payer ici et maintenant les 249 milliards. Les fonctionnaires demandent au gouvernement qu'il y ait un accord sur ce stock des arriérés qui va permettre de payer ce stock par tranche. C'est vrai que ce qui s'est passé au niveau militaire, ça a eu un impact psychologique sur les fonctionnaires qui pensent qu'aujourd'hui, il est tout à fait légal et légitime que le gouvernement également fasse un geste concernant leurs arriérés.
Théodore Nianzadi, président de la plateforme des fonctionnaires ivoiriens.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Sénégal, le car rapide est un moyen de transport en commun impossible à ignorer dans les rues de Dakar et d'autres grandes villes comme Saint-Louis, tant il est bariolé et gribouillé de bout en bout. Selon notre correspondant sur place, le car rapide n'est pourtant ni beau ni un joyau, mais il demeure un des moyens de transport les plus prisés dans le pays et est même devenu un symbole au point de faire partie de l'exposition permanente du Musée de l'Homme de Paris. Plus de détails avec Sedina Bagay à Dakar.
Venu d'Europe, le car rapide est à l'origine une voiture de transport de marchandises. Au Sénégal, il a été modifié en véhicule de transport en commun depuis plusieurs décennies. Prisé par les usagers, il est aujourd'hui incontournable. Sossé Ndiaye, secrétaire général du garage des car rapides, vante ce phénomène.
Dans le cas où vous voyez, il y a une 75, il y a une 76.
Les cars sont arrivés au Sénégal entre 1975 et 1976, donc ils sont en service depuis 30 à 40 ans. Ce sont des voitures qui, au-delà des concessionnaires, aident des personnes qui y trouvent tout leur compte. À part les chauffeurs et les apprentis, il y a les rabatteurs éparpillés à travers les artères de Dakar. Le coût du transport aussi est très bas, ce qui le rend accessible à tous. Beaucoup de personnes gravitent autour de ce business. Il y a les laveurs, les tauliers, les mécaniciens, les vendeurs, entre autres.
Ce bus, dont notre âge tient donc un rôle social dans un pays qui manque de ressources. Les usagers y sont à l'aise, comme l'indique Thurosen, technicienne de surface dans les bureaux du centre-ville de Dakar.
Le coût du transport n'est pas cher et les apprentis sont assez compréhensifs. Ensuite, dans le car rapide, on est assis tout au long du trajet, contrairement aux bus modernes qui n'offrent pas ce confort. Le seul inconvénient du car est sa lenteur, car il traîne énormément et s'arrête à chaque coin de rue. La preuve, après une journée de travail, tu peux quitter le centre-ville à 16h et arriver en banlieue vers 18h. Mais bon, comment on est assis, ça ne fait pas de mal.
Ce symbole du transport interurbain emploie un chauffeur et son apprenti. Ce dernier fait office de receveur et utilise le marchepied du véhicule comme cabine. Idriss Angom, chauffeur depuis près de 30 ans, témoigne.
Sincèrement, le car arrange tout le monde, mais il y a certains problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les chauffeurs manquent de couverture sociale. Certes, on a de bons revenus et on vit convenablement avec nos familles, mais après 27 ans de carrière, on devrait au moins être propriétaire d'un véhicule. Et pourtant, il n'en est rien, alors que le souhait de tout travailleur est de gravir des échelons.
Le jeune apprenti Moussa Ndiaye évoque les difficultés qu'il rencontre, principalement avec les clients.
Moi, je n'ai pas les mêmes soucis que les vieux, car je me débrouille bien avec mes revenus. Je respecte tout le monde dans ce business. Cependant, les rabatteurs et les clients nous posent parfois du tort avec leurs attitudes. Des fois, nous rencontrons des personnes qui font tout pour perturber notre travail. Il y en a qui refusent de payer et d'autres essaient de nous intimider. Mais malgré tout, on essaie de faire avec et quand cela ne marche pas, on se sent obligé de nous battre.
Souvent décrié pour sa vétusté et son manque de sécurité, des fois même appelé cercueil ambulant, le car rapide est pourtant un des moyens de transport les plus utilisés de Dakar. Malgré l'arrivée de bus modernes, le car rapide résiste au temps et aux mutations. Seydina Abagui, à Dakar, pour VOA Afrique.
Et pour terminer cette nouvelle de dernière minute du Burundi, 8 personnes ont été blessées dimanche soir par l'explosion d'une grenade dans un quartier nord de Bujumbura, considéré comme un fief du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. C'est ce que la police annonce aujourd'hui. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.